Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane.
Bonjour mesdames, messieurs et toute autre personne qui ne se retrouve pas dans les cases binaires. Vous écoutez la deuxième émission de Radio Caravane qui a couvert la 7e édition de l'événement Créatrice à la Grainerie, où les questions sociétales sont au cœur d'une liberté de corps, de mouvement, une liberté de soi.
Au programme de ces prochaines 30 minutes, corps, drague, clown, on joue avec les apparences, on reçoit Caroline Aubin de l'Apprenti Compagnie, Céline Berneron et Édouard Gautron de la compagnie 220 vols, ainsi que Laure Bancillon de la compagnie Mesdemoiselles.
Mais tout de suite, on se retrouve avec Julie Tavert de la compagnie La Nécuia qui nous parle du changement du corps à mettre sur scène après une interruption volontaire de grossesse.
Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous pratiquez le cirque, la danse, le théâtre et du coup l'acrodanse. Comment est-ce que vous arrivez à proposer une homogénéité de ces différents arts ?
Pour moi, l'acrodanse, c'est un outil. C'est l'outil avec lequel je me suis formée et c'est ma manière d'être artiste, en fait. Je vois pas de frontières et en même temps, j'ai l'impression qu'on nous met des frontières tout le temps. Je fais en sorte que l'outil de l'acrodanse soit au service d'émotions, c'est de rendre visible l'invisible, enfin voilà.
Votre spectacle aborde le sujet de l'IVG. Comment on arrive à s'exprimer avec son corps, justement, après toutes ces épreuves ? Et comment est-ce qu'on peut en parler pour sensibiliser les hommes cisgenres, notamment ?
Ça a été un vrai cheminement. Cette question est très intéressante parce qu'au début, je voulais être au plateau. Après avoir vécu moi-même l'expérience de manière réelle, je voulais être le corps qui poétise. Et puis, il se trouve que je suis tombée enceinte. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me retire du plateau pour laisser un autre corps raconter cette histoire-là de manière poétisée. Donc j'ai vraiment fait le choix de me retirer, en fait, pour ne pas être le corps qui porte le projet, qui raconte l'histoire qu'il a vécue et qui interprète. Et ensuite, comment sensibiliser les hommes cisgenres ? Je dirais que cette histoire les concerne autant. Dans un IVG, il y a un corps porteur, mais il y a un bébé, ça se fait pas seul. Donc il y a une responsabilité. En fait, ils sont impliqués dans le choix aussi. Ils ont leur mot à dire. Après, est-ce que c'est eux qui doivent trancher ? Ça, là, on rentre dans une question qui, pour moi, n'a pas de réponse. Ça appartient à chaque couple et à chaque non-couple. Là où je pourrais sensibiliser, c'est qu'un IVG dans la vie d'une femme, c'est pas rien. Par exemple, le terme IVG de confort, c'est un non-sens en fait pour moi. Je dirais à ces hommes, accompagnez en fait. Accompagnez la personne comme vous le pouvez avec les moyens que vous avez. Mais ne pensez pas qu'une fois que c'est interrompu, c'est terminé.
Je vais rebondir sur ça parce qu'on parle beaucoup de l'IVG et des droits en ce moment. Tous les droits acquis, que ce soit par les femmes, par les minorités de genre, etc., sont remis en cause en ce moment et même depuis quelques mois, notamment par des idées politiques nauséabondes qui reviennent en force. Comment, en tant qu'artiste, on peut se battre, s'exprimer sur des sujets importants comme l'IVG, comme le viol, comme plein de choses ? Comment toutes ces questions autour des genres et des sexualités, on peut les exprimer sans se faire censurer, en gardant notre liberté aujourd'hui ?
Quelque part, je pense que quand un artiste, il est motivé par le besoin d'exprimer quelque chose, ça, en fait, c'est notre travail d'utiliser nos outils, mon outil de circassienne, pour mettre des choses au plateau. Donc finalement, j'ai pas peur de porter ces sujets. Maintenant, j'ai peur qu'on me retire les moyens. Je pense que les artistes, ils ont pas de souci à dire ce qu'ils ont besoin de dire. Le souci, il est plus dans est-ce qu'ils ont accès aux moyens nécessaires pour le faire.
Depuis quelques semaines, on a beaucoup de budgets sur plein de sujets différents qui sont en baisse en France. Beaucoup de coupes budgétaires massives, soit dans les collectivités territoriales ou directement au niveau du ministère de la Culture. Menace d'arrêt du fonds JEPS à partir du mois de juin. 80 millions d'euros en moins pour l'audiovisuel public. Projet de holding, bon, toujours en cours, on en a entendu parler. Baisse de la franchise de la TVA pour les artistes auteurs-autrices. RSA et assurance chômage conditionnée à des heures d'activité. Sous-financement chronique des établissements d'enseignement artistique spécialisés, des écoles menacées, etc. Gel des salaires et du point d'indice, baisse des indemnités journalières de la sécu sociale, précarité à tous les étages, en gros. Comment rebondir ?
C'est la question que je me pose en ce moment, très sincèrement. J'ai porté automne pendant 4 ans. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de la vie qu'il va avoir. Je sens bien que la difficulté de l'invisibilisation, elle est réelle. La difficulté de la diffusion, elle est réelle. Enfin, oui, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de continuer dans ces conditions-là qui peuvent nuire à la santé psychique ? Honnêtement, ma réponse est je ne sais pas. Là où je m'interroge, c'est est-ce qu'il faut sensibiliser le public à nos difficultés, sachant qu'en fait, aujourd'hui, la société est en difficulté dans plein d'endroits. La question, c'est comment sensibiliser les gens sur la nécessité de la culture, la nécessité d'endroits de... On a été considérés comme... non, c'était quoi le terme pendant le
non COVID. Essentiel.
Non essentiel. Et je pense qu'il y a un travail de fond sur montrer à quel point c'est essentiel la culture. Là, clairement, on rentre dans la sphère politique. On peut sensibiliser le public, on peut sensibiliser les gens à l'essentialité de la culture. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire parce que le bateau prend l'eau un peu partout, dans les hôpitaux, dans les écoles. Tout est urgent. Le climat, l'éducation, l'hôpital, la culture, les services publics sont tous en train d'être attaqués. Donc je pense que venir par le prisme de regarder nos difficultés, c'est mettre en miroir, regarder les nôtres. Donc c'est aussi comment la société aujourd'hui choisit la société de demain, pas que à l'endroit de la culture. Qu'est-ce qu'on veut comme éducation? Qu'est-ce qu'on veut comme soin? Notre vie collective, c'est quoi notre bien commun? Et je pense que tant qu'il n'y a pas une prise de conscience sur plus on attaque le bien commun et plus chacun sera précarisé. Voilà, je pense que le bien commun, il permet le collectif. Mais ça, c'est un choix politique.
Du drag, du clown, c'est la fantaisie de Caroline Aubin, de l'apprentie compagnie qui déstabilise la norme et bouscule les genres.
Bonjour Caroline, comment vas-tu?
Ça va super, je suis contente d'être ici.
Peux-tu nous préciser les pronoms que tu utilises?
Plutôt elle, a priori. Mon fils dit Yel quand je suis en clown, donc j'ai appris que j'étais Yel.
Comment définir le travail d'artiste clown plasticienne?
Pendant mon parcours de clown, puisque j'ai choisi d'être clown, j'avais toujours une espèce de tendance à faire toujours des petits trucs en art plastique, mais qui étaient toujours dans un monde un peu parallèle, parce qu'il n'y avait pas de sous. Donc je faisais un calendrier... tous les 3 ans, avec des photos mises en scène en clown. Je faisais des scénographies, mes scénographies en clown. Je construisais mes costumes, etc. Et un jour, j'ai fait des enfants. Donc, dans le parcours d'une femme, c'est assez intéressant parce que ça impose un rythme, moins de transport, etc. Et donc, j'ai un peu réfléchi à comment continuer mon métier d'artiste, ma recherche, en bougeant moins. Et donc, les arts plastiques sont venus s'imposer à moi à ce moment-là, où je me suis dit, je vais en faire mon centre pendant un certain moment. Donc, j'ai repris des études en arts plastiques pour travailler sur le clown dans le domaine des arts plastiques. Et ça a été vraiment, pour moi, une vraie révélation de découvrir tout le vocabulaire des arts plastiques, qui je trouvais qui correspondait beaucoup mieux au métier de clown que le vocabulaire du théâtre. Parce que le clown, c'est un artiste performeur plus qu'un comédien qui a un rôle et qui va changer de rôle. Faut savoir que le clown, voilà, on se le trimballe toute une vie. Donc ça devient presque un être à part entière. Les gens qui viennent voir Proserpine, qui est le nom de mon clown, ils viennent voir Proserpine, ils viennent voir un être à part entière, comme on viendrait voir un artiste, quoi.
Pour cette nouvelle édition de Créatrice, tu as proposé le spectacle Au mot suivant, avec le collectif Les Enchantreurs. Peux-tu nous présenter ce collectif?
Avec Au mot suivant, j'ai invité 5 artistes, jeunes artistes que j'ai formés au clown pistellaire. Et le clown pistellaire, c'est une méthode qui vient du cirque, donc de la piste. Comment le fait d'être entouré de gens va imposer des codes de jeu très spécifiques, qui ne sont pas les mêmes qu'en frontal. Et comment ça va former une manière d'être en clown extrêmement différente qu'en frontal, qui est une manière qui se rapprocherait d'une cosmologie du vivant, c'est-à-dire qui ne serait pas de jouer avec le monde, mais qui serait d'être le monde et de le regarder à l'intérieur de soi. Il y a aussi tout le travail sur la transformation, de comment s'effacer socialement pour pouvoir se rencontrer de nouveau, différemment, plus grand, enrichi de tout son dessous de l'iceberg. Donc voilà, ça c'est le clown pistellaire. Et donc, j'en reviens à Au mot suivant, ce collectif qui invite 5 autres clowns, jeunes clowns, donc, que j'ai formés et avec lesquels on réfléchit à une création. Ce qu'on a présenté le 9 avril n'était absolument pas un spectacle, mais une sortie de résidence et surtout la première sortie de résidence d'un travail qui va se faire sur 3 ans, de réflexion sur... une possible transformation d'un homo sapiens en un homo suivant. Comment il semblerait opportun de se poser la question de la transformation et de pas essayer de changer le monde, mais plutôt de se transformer nous pour pouvoir vivre le monde différemment. Voilà.
Homo suivant est un drag show de clown. Au-delà de l'art du drag avec les queens et les kings, qu'est-ce que le drag clown ? En quoi les clowns sont des drags ?
Alors, c'est un peu la question qu'on s'est posée. On n'a pas vraiment les réponses. Donc, c'était vraiment une résidence de recherche sur le drag clown en se disant, le monde du drag s'est emparé du clown pour créer une branche dans le drag qui, il me semble, remet encore plus en question la question du genre pour aller vraiment vers des créatures qui soit, parce que le clown, c'est un être totalement artificiel. On pourrait dire que le clown, finalement, c'est un extraterrestre. Il ressemble à rien de ce monde. Il n'a pas les mêmes couleurs, il n'a pas la même consistance, les formes sont différentes, etc. Donc, je pense que le clown a apporté ça au drag, cette possibilité d'aller encore plus loin dans la transformation. Et une autre question, c'était qu'est-ce que le drag, du coup, peut nous apporter et comment nous, on s'en emparerait. Et ce qui a semblé vraiment intéressant, c'est comment il nous a autorisés en tant que clown à nous déconstruire encore plus, c'est-à-dire à aller vers des formes plus hybrides qui soient entre l'artiste et le clown. Si on enlève le nez, par exemple, on garde tout le maquillage, mais on enlève le nez. Ou on enlève juste le chapeau, il y a nos cheveux de femme qui arrivent, mais ce maquillage reste très présent et donc devient finalement un maquillage plus rituel qu'un maquillage de clown. Donc de voir un peu toutes ces couches de transformation et comment ça proposait de nouveaux territoires pour le clown. Et donc on a vu des personnages aussi chez nous en se transformant, qui allaient vers le freak, des clowns qui ont pu trouver des endroits de leur clown extrêmement enrichis de ce drag clown en fait.
Faut-il une esthétique queer pour être drag clown ?
Alors, pour être clown, de toute façon, il faut une esthétique queer. C'est complètement queer. Tout le processus de formation d'un clown, ça correspond complètement à la réflexion de l'esthétique queer sur, justement, remettre en question l'identité sociale, s'émanciper de soi-même. Et c'est totalement queer aussi, parce que le clown, déjà, est une figure masquée, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre ce que je suis, moi, Caroline, et un maquillage qui change l'architecture de mon visage, mais qui est fusionné. Donc, c'est quand même un bout de moi qui est filtré différemment, en fait, qui me donne et qui donne au spectateur un nouveau goût de moi-même. Et il est question de semer le trouble, donc de vraiment chercher à aller vers une vision beaucoup plus complexe de la personne, beaucoup plus entière de la personne, et donc bizarre, queer, désarçonnante par la transformation du clown, la transformation de la voix, qui est, quand on me dit par exemple « mais ta voix, ça doit être difficile de la tenir », je dis « non, en fait, ma voix de clown est ma vraie voix ». La voix que j'utilise maintenant n'est pas ma vraie voix. La voix que j'utilise maintenant est totalement restreinte par rapport aux possibilités et à la liberté que j'ai quand je pars dans la voix de mon clown. En revanche, si je commence à parler comme mon clown maintenant, c'est extrêmement bizarre pour une femme de mon âge, tu comprends ? En fait, comment notre corps, nos émotions devraient imposer des choses à nos cordes vocales, mais automatiquement que l'on restreint pour pas être chelou, quoi.
Eh ben, merci encore, Caroline.
Avec plaisir, merci à vous.
On enchaîne avec Céline Berneron et Édouard Gautron de la compagnie 220 Vols, qui présente une monarque déjantée et loufoque, c'est Princesse Berna. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour Édouard.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, très bien.
Ça va.
Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, de votre compagnie, des membres qui la composent, de son histoire.
Sacrée histoire, parce que ça a commencé en 2006, 2007, je ne sais plus exactement, avec Christophe Bouffartig, qui était guitariste et qui s'appelle Monsieur le Directeur aussi, qui fait de la musique à Toulouse. Et on a monté cette compagnie. Après, on s'est divisé, on a fait 3 spectacles, Western Spaghetti, Larsen et Q, comme queer, sur lequel ça a explosé, en fait, le duo. Et ça, c'était en 2015 où ça s'est arrêté. Et après ça, moi, j'ai continué sur ce qui avait été écrit. D'abord, j'ai monté un petit numéro où j'ai joué au Lido, après avec un batteur. Et après, le batteur, il m'a dit j'arrête. Et là, j'ai appelé Edouard, qui est un ami d'enfance. Là, on a commencé des résidences et on a travaillé. On a sorti la première de ça, c'était en 2018, au Grand Rond, ici. Suite à cela, je suis tombée enceinte à ce moment-là, au moment où je joue au Grand Rond. Et après, il y a eu la Covid. Et après, j'ai fait autre chose avec un autre partenaire, avec Nico, avec qui j'avais travaillé sur Larsen. On avait travaillé avec Fred Blin. Il a vu Princesse Aurélia il y a 2 ans. Et il m'a dit, je vais t'aider, donner des directions plus claires. Donc, on a fait appel à des structures, à la DRAC, pour avoir un peu de sous, pour faire une recréation.
Vous proposez donc le spectacle Princesse Bernard pour l'événement Créatrice. C'est un spectacle, comme tu le disais, recréé.
Oui.
Pourquoi ça ? Comment décide-t-on de recréer un spectacle qui a déjà eu une vie antérieure ?
Ça vient de moi, de pas vouloir lâcher ça, de par l'histoire que ça a eu, en fait. On est en duo, mais c'est plutôt un solo accompagné. Donc les solos, c'est un peu particulier, parce qu'on se parle de... On se met en scène beaucoup soi, même si ça... C'est universel, ce qui me touche. Et après, moi, je suis assez jusqu'au boutiste, de toute façon, parce qu'ils se voyaient dans mes autres créations. Donc ça vient de ça, je pense aussi, de ce trait de caractère-là, donc d'aller au bout. Voilà. Après, j'ai fait un autre projet qui était assez prenant, qui ne me laissait pas la place de continuer ça. J'ai eu envie de le reprendre, enfin, d'aller au bout. C'est vraiment ça. Et là, je suis plutôt contente d'avoir fait ça, même si on n'a pas encore joué. La direction qu'on y redonne, et même le temps qui est passé ça mûrit, un truc qui est plutôt pas mal pour un solo. Mais vraiment, personnellement, c'est vraiment fort de faire ça. Pour moi, c'est vraiment important d'aller au bout et de... Comme il y a eu l'opportunité, un peu Serge qui a dit OK, la DRAC qui a dit OK, le Grand Rond qui a dit OK. C'est un cheminement.
Par rapport au spectacle, qui est Princesse Bernard ? Est-ce une princesse qu'il faut sauver ou bien une princesse combative et revendicative ?
Un peu tout, en fait. Hein. Mais non, je dirais d'abord, je revendique et... Ça, c'est sûr. Il y a des jeux du triangle, c'est-à-dire je domine, je passe à victime, je passe à je me sauve, j'ai envie qu'on me sauve. Et c'est ça qui est rigolo, c'est l'humain.
Et en quoi Princesse Bernard pourrait-elle être à la croisée entre Madonna et Maradona ?
Cette histoire, c'est parce que Madonna, c'est comme un égrégore. Il y a la Vierge Marie, vous voyez, c'est un égrégore. Madonna, c'en est un aussi, quelque part. Elle a réussi à créer ça. Et c'est un espèce de truc... En fait, moi, je fais aussi des stages de chamanisme, pour vous dire. Non, je le dis en riant, parce que j'ai presque un peu honte, alors que je trouve ça génial. Et dans un truc sur... J'ai fait un stage sur l'abondance autour du chamanisme. Et on va chercher son animal de l'abondance. Et après, on va chercher une figure, un peu. Et c'est... Tu choisis pas ce qui arrive, tu laisses défiler, on va dire. Et c'est Madonna qui est arrivée. Du coup, j'ai gardé ça. Et après, Maradona, c'est parce que c'est la main de Dieu et que c'est un truc que je dis, je travaille à l'âle de la machine. Je dis, là, j'ai fait quoi ? Je suis la main de Dieu. Et c'est un peu se prendre pour quelque chose. C'est une sorte de... J'avais envie, parce qu'elle représente, du coup, dans mon stage de l'abondance et le succès que je vise. Elle est un peu rigolote aussi, quoi. Elle a passé dans tous les styles. Et Maradona, ils sont un peu marrants aussi. C'est un peu de l'excès.
Ouais. C'est aussi le décalage entre la prétention et l'être.
Complètement. Ouais. Et c'est de la prétention. Et on joue de ça dans le spectacle, bien sûr. On prétend...
On voudrait juste terminer par une pensée au théâtre du Grand Rond, oui. Avec qui vous êtes en complicité.
Oui.
Avez-vous un mot pour parler de la situation du théâtre actuellement ?
Tu vois, je suis vraiment peinée de... Ce qui est en train de se passer, il ne faut pas lâcher. Il y a des actions qui sont collectives. Le truc, c'est le rassemblement, de ne pas se lâcher les uns les autres. Et ouais, voilà, moi je dirais de ne pas lâcher. Voilà, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher et se communiquer. Voilà, et c'est ce qui s'est fait. Donc il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés le plus possible, être ensemble là-dessus, sur ces sujets-là et les défendre. Il y a des conjonctures, enfin après, et voilà, mais le seul truc qu'on puisse faire, sur lequel nous on puisse avoir des actions, c'est... Enfin, agissons sur quoi on peut agir, c'est-à-dire en parler, manifester pour ceux qui peuvent aller manifester, et après, se réinventer. Je ne sais pas ce qui va se passer avec tout ça, avec ce qui est en train de se passer, on va dire, au niveau des coupes budgétaires, etc. Je ne sais pas du tout. Il y a des actions qui se font. Donc non, je dirais, je suis peinée, et que merci, et je les remercie, parce que c'est un super lieu. C'est un super, super lieu. On est bien. J'ai joué plusieurs fois avec différents trucs. Ce truc de reprendre Princesse, Eric m'a vraiment soutenu. Serge aussi. Et aussi Edouard qui est resté quand même. On reprend pas tout seul. C'est sympa. Je suis pas tous les jours sympa.
Ça rejoint un peu toute cette interview. C'est-à-dire que quand on considère le spectacle vivant comme un art militant ou une manière de se dresser contre les morosités du monde, c'est où est-ce qu'on a envie de mettre notre focus. Donc là, le focus, si on suit les informations, c'est il n'y a plus d'argent pour la culture, alors que c'est probablement ce qui nous permettra de s'épanouir d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Donc, sinon, continuer à faire ce qu'on fait. Je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus, mais on voit bien que les manifestations ne sont pas entendues, que les paroles qu'on cherche à donner ne sont pas entendues, que certains préfèrent orienter le focus ailleurs, la focale. Donc, continuons, quoi. Battons-nous pour créer le monde qu'on a envie de vivre demain, qu'il soit désirable et pas ce qu'on essaye de nous vendre à grands coups de télévision, d'images et de caméras braquées toujours sur les mêmes angles.
Oui, c'est des points de vue aussi.
Ce sont des points de vue, voilà.
Tout à fait. Eh ben, merci pour cette interview. Est-ce que vous avez un site ou des réseaux pour pouvoir vous retrouver, vous suivre?
C'est une Berneron, tire 220 vols. Les réseaux, franchement, j'ai commencé à poster un truc hier sur Instagram, quoi. Donc, j'ai...
Nous, on est plutôt d'une génération où il faut venir nous voir, hein, en vrai, plutôt que de passer par des réseaux ou quelque chose qui est finalement très peu représentatif de ce qu'on peut faire. Voilà. Et donner et partager.
Après créatrice, on vous retrouve où?
Alors, on va aller dans les Charentes. Après, j'attends des réponses pour des offs. Normalement, on fait Aurillac. Et pas trop, parce que de toute façon, on va finir ce spectacle cet hiver avec une créa lumière et du retravail, même s'il a un parcours particulier. En tout cas, on va finir cet hiver. Et donc, j'attends des nouvelles un peu des partenaires pour ça. Et après, j'ai beaucoup moins de paroles que ce qu'il y avait avant, puisque moi, j'aimerais bien l'exploiter à l'étranger aussi.
Merci beaucoup. À vous deux.
Nous accueillons Laure Bancillon de la compagnie Mes Demoiselles. Entre bonheur et burn-out, comment les femmes sont-elles perçues à travers les écrans et sur scène?
On a lu que le spectacle Bonjour Bonheur se joue principalement en extérieur. Quelles sont les contraintes techniques, administratives ou autres que l'on peut rencontrer lors d'une représentation comme celle-ci?
Ouais, c'est ça. Nous, la compagnie, depuis le début, on défend le fait de jouer dehors. Même si on propose des spectacles parfois où il y a besoin de silence, où il y a des suspensions. En fait, on se dit que c'est pas parce qu'on est dehors qu'on peut pas proposer des choses qui sont fines. Après, ça demande en effet du taf, dans le sens où, si tu t'emmerdes, tu te lèves et tu t'en vas en rue, contrairement à un théâtre. Et après, les contraintes, c'est qu'il faut être le plus autonome possible, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau du montage, du démontage. Ça implique qu'on doit tout faire. Et les contraintes de jouer dehors, c'est la pluie, essentiellement. Un peu le vent aussi. Mais en effet, la grosse contrainte de la rue, c'est qu'on est tout le temps en train de regarder la météo pour savoir s'il faut ranger ou pas le matériel de cirque, surtout. Parce que le reste, ça peut rester dehors.
Nous avons lu que l'idée de votre spectacle vous est venue durant la crise sanitaire de Covid-19. Cela vous a-t-il posé la question de redéfinir le bonheur?
Carrément. C'est complètement ça. Confinement, plus de travail, beaucoup de temps. Sans parler du travail, hein, qu'est-ce qu'on fout, tout court. Moi, j'avais un petit garçon à cette époque-là, donc qu'est-ce que je lui apprends aussi? Qu'est-ce que c'est les priorités? Qu'est-ce que j'ai plus envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de démarrer? Et à cette période-là, il y avait 50 000 propositions pour aller bien, quoi qu'il arrive. Du coup, on est enfermé chez nous, mais on peut faire du yoga à la maison. On est enfermé chez nous, on va devenir taré, mais vous inquiétez pas, on peut faire des thérapies à travers des Zooms. Et en fait, il y avait tous ces trucs-là où nous, on se disait waouh, mais qu'est-ce que c'est le choix de tout ça? Et donc, il y a eu vraiment cette question de... On n'a pas eu le droit d'aller mal. Il fallait tout de suite qu'on aille mieux. Et donc, on a réfléchi autour de l'injonction du bonheur. L'injonction de dire tout le temps... Allez, vite, vite, faut se relever, quoi. Et du coup, là, on est parti de cette base-là pour cette créa. Qu'est-ce que c'est le bonheur? On n'a pas la réponse encore. Hein. En tout cas, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est palpable? Est-ce que c'est si important? Enfin, on essaye d'évoquer tout ça, quoi, à travers le spectacle.
Le bonheur est une notion subjective. Pourtant, la société nous pousse à adopter sa vision du bonheur. Donc, grosse voiture, belle maison, 3 enfants, 2 chiens, un chat, un grand jardin électroménager, dernier cri, par exemple.
C'est ma vie. Nickel.
Comment déconstruire cette vision que le peuple adopte inconsciemment? La satire que vous proposez dans Bonjour Bonheur pourrait être une piste.
Après, moi, je prétends dans aucun spectacle donner la clé ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aimerais réussir à faire dans Bonjour Bonheur, c'est juste déjà faire réfléchir un peu. Là, dans le spectacle, c'est que c'est l'histoire d'un plateau de télévision avec une présentatrice qui gère cette émission depuis 10 ans sur le bonheur et en effet, qui est derrière son écran et toujours un peu en forme. Et là, il se trouve qu'en fait, elle n'en peut plus et elle va complètement craquer. Et du coup, nous, on va essayer de trouver des solutions pour pas qu'elle craque. Jusqu'à ce que finalement, on se rend compte que peut-être que c'est pas mal de passer par le craquage. Et on se pose beaucoup la question, nous, personnellement, dans nos vies, c'est qu'on a quand même la sensation que pour pouvoir atteindre le bonheur, il faut être un petit peu passé par le malheur, quand même. Je mets des gros guillemets, hein, bien sûr, mais en fait, c'est pas, on peut pas toujours être en haut, quoi. C'est la vie qui fait qu'on apprécie le bonheur aussi quand on a traversé un peu des choses compliquées. Et c'est que dans notre société, on n'accepte pas de rester dans ces périodes compliquées. Il faut vite en sortir, par faire du yoga, par... Et là, nous, on essaie de dire dans le spectacle, bah, et pourquoi on resterait pas un peu plus longtemps et qu'on irait au bout du moment où on n'est pas bien pour essayer de comprendre pourquoi on n'est pas bien. Et pour... Ça, c'est nous, c'est nos histoires perso. Après, est-ce que c'est perçu sur le plateau? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de... Pour être heureux, il faut faire comme ça. Venez voir le spectacle, on va vous donner la réponse.
Comment garder la face à toutes ces nouvelles anxiogènes en ce moment, comme la montée du fascisme, les soutiens à la culture en chute libre? Le bonheur est-il une ressource épuisable?
Franchement... Comment je pourrais aborder cette réponse Moi, dans ma vie, en ce moment, je traverse un drame familial, une maladie qui est en train d'emporter quelqu'un de très proche de moi. Et du coup, ça me permet de me focaliser sur ça. Ce qui compte, c'est être vivant, être en vie, en bonne santé. Et là, moi, je suis là-dessus en ce moment. Et du coup, je t'avoue que... Poutine et Trump, c'est une grosse blague pour moi et je préfère pour l'instant, même si je sais que c'est une réalité, hein, mais en tout cas, moi, c'est mon moyen de défense. C'est très personnel, hein, ce que je dis. Hein. Mais mon moyen de défense en ce moment, c'est de me dire que j'ai pas envie qu'il rentre dans ma vie en ce moment et que j'ai de la chance de faire ce métier, d'être au plateau, d'être en bonne santé et que j'ai envie d'en profiter et j'espère pouvoir le partager avec le public cet été quand on va tourner, quoi. Si, on peut encore tourner, mais pour l'instant, moi, avec mes petites pattes, je vais pas pouvoir changer grand-chose.
Les femmes qui jouent le rôle des super-vilaines sont des femmes fortes, de caractère. Beaucoup de femmes dans le civil apprécient ces personnages, et moins les princesses ingénues à devoir sauver. Dans les jeux vidéo aussi, la représentation des femmes évolue. Malgré les clichés persistants, quel regard portez-vous sur tout ça?
Les super-vilaines, c'est vraiment venu de là, en fait... De transformer, de... En fait, on a fait un peu des recherches sur les super-héros, quand est-ce qu'ils sont arrivés, c'est quoi la symbolique. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Hein. C'est plutôt les mecs qui sauvent le monde. Et à l'époque, ils sont arrivés aux États-Unis à une période où tout le monde était un peu en burn-out et tout le monde sautait par la fenêtre, quoi. Et du coup, le seul recours qu'on a eu, c'est d'imaginer des personnages magiques qui allaient nous sauver la vie. Et on a fait un peu un état de fait de... Bah, en fait, quand on en arrive là, c'est qu'on est vraiment un peu désespéré, quoi. Bah, du coup, nous, on a renversé le truc et on s'est dit qu'on allait être des super vilaines et qu'on allait être plutôt dans la satisfaction de voir les gens malheureux. Et on a envie de combattre ce bonheur persistant et invasif de tout le temps être heureux et de leur dire avec nos super vilaines, mais soyez malheureux, profitez-en, ça fait aussi partie de la vie. Qui fait ça? Et en effet, on est un peu mochette dans ces super-vilaines. On n'a pas le joli string avec la belle poitrine rebondie, mais on est plutôt gollumesque, quoi. Je ne sais pas comment dire. Et d'ailleurs, nous, physiquement, on s'amuse beaucoup dedans aussi, parce qu'on casse aussi un peu cette image, en tout cas dans les super-vilaines, de tenir la face. C'est aussi de tomber le masque et de boucler la boucle, quoi.
Vous venez d'écouter la deuxième émission Radio Caravane de l'édition 2025 de Créatrice. Écoutez et réécoutez la première et toutes les interviews en version longue sur radiocaravane.net.
A bientôt pour de nouvelles aventures au micro. Cordialement, bisous.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Médias Communs et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.